construit, et la nature, rampante et vorace, semblait chaque année reprendre ses droits. Les optimistes disaient que cela offrait aux pensionnaires une belle vue sur le plateau. Les autres, dont ils faisaient partie, considéraient que cette plaie béante dans l'enceinte de l'asile n'était rien d'autre qu'un antre à courant d'air. Certaines nuits, les hurlements du vent se confondaient avec ceux des patients dans une litanie horrible. D'ailleurs, personne n'avait dû entendre les cris du petit. Le vent redoubla. Gauthier essuya une larme sur sa joue. Foutue tempête. Une main se posa sur son épaule. C'était celle du directeur Vidal. « C'est dur pour nous tous, Gauthier, » lui souffla-t-il à l'oreille. « S'il vous plaît, faites front. » Le jeune homme eut envie d'expliquer que s'il pleurait, c'était à cause de ce satané Vendéo. Mais il se ravisa. Mieux valait passer pour un émotif que pour un sans-cœur. Le directeur Vidal appuya son étreinte un instant, comme pour donner plus de poids à ses paroles, puis se tourna vers l'homme en impair. « Si nous pouvons vous être d'une quelconque assistance, commandant, n'hésitez pas. » L'homme répondit par un bref hochement de tête et s'approcha du corps d'Étienne. « Quel âge ?» Le directeur le rejoignit. « 10 ans. Arrivé il y a à peine 2 mois. Aucune famille connue depuis la mort de la mère. C'était, comment dire, une sorte de placement temporaire. » Le commandant Durieux ne répondit pas tout de suite. Des enfants morts, il en avait déjà vu. Pas souvent, heureusement, mais quelques fois tout de même. Pourtant, il n'avait encore jamais ressenti pareil trouble devant un cadavre. Il y avait, dans l'expression figée de ce visage, quelque chose d'inhabituel qui le mettait sourdement mal à l'aise. « De quoi souffrait-il » finit-il par demander. Le directeur ouvrait déjà la bouche pour répondre lorsqu'une voix, forte et grave, se fit entendre derrière eux. Hallucination paranoïaque et délire de persécution. Durieux fit volte-face pour découvrir un homme d'une 50aine d'années. De longs cheveux gris retombaient de part et d'autre d'un visage strict, au centre duquel 2 billes bleues le scrutaient posément. L'homme avait la nuque droite de celui qui se sait important. Le commandant jeta un bref regard à sa blouse, parfaitement repassée. « Bonjour, docteur, » le salua-t-il dans un hochement de tête. « Vous vous occupiez de ce patient ?»« Entre autres, oui. J'assure la supervision médicale de l'établissement. » Durieux n'eut aucune réaction, incapable de se figurer ce que ce titre pouvait bien signifier. Pour lui, un métier devait être simple. Boulanger, médecin, avocat. La supervision médicale d'un asile de fous, même s'il avait entendu dire que le terme était proscrit, ne lui évoquait rien. Comme s'il avait lu dans son esprit, le directeur Vidal intervint. « Le docteur Valmont est notre psychochirurgien en chef. C'est lui qui opère nos patients et établit tous les diagnostics. Il dirige également ses propres recherches comportementales au sein de notre établissement. » Durieux haussa les sourcils, vaguement impressionné. « Je vois. » En réalité, il ne voyait rien du tout. Il s'accroupit et approcha son visage de celui de l'enfant. Les yeux avaient séché, la langue également. Pourtant, l'expression restait intacte. De la terreur, il l'aurait juré. Il détailla un instant le reste du corps. Les segments des membres formaient des angles inhabituels, comme si les articulations avaient cédé. Avait-on battu cet enfant? Était-il possible qu'il soit tombé de suffisamment haut pour se briser les os? Durieux leva les yeux pour inspecter les alentours. Aucun arbre ni bâtiment à proximité. Le gamin n'avait pas pu tomber du ciel. Il revint au cadavre. Les habits déchirés laissaient entrevoir des plaies béantes, plus ou moins coagulées. Des morceaux de chair semblaient avoir été arrachés des avant-bras et des cuisses. Il plissa les yeux dans une moue de dégoût. Des morsures. Cet enfant avait été partiellement dévoré. Certains malades avaient-ils une raison de s'en prendre à lui ? Vous savez, la raison n'est pas le fort de nos pensionnaires, souligna le chirurgien Valmont. Le commandant ne releva pas le trait d'esprit. Avez-vous remarqué la présence d'animaux dans la région ? Chiens, loups ? Valmont laissa échapper un rire narquois. Vous faites fausse route, commandant. Cette fois, Durieux se retourna vers le médecin. Éclairez-moi. À 7 ans, Étienne a attrapé la coqueluche. La maladie l'a cloué au lit plusieurs jours, de sorte qu'il ne pouvait plus aider sa mère aux tâches quotidiennes. La pauvre femme est morte, dévorée par un animal, probablement un loup, alors qu'elle était allée chercher du petit bois. Et ? Étienne était encore trop jeune lorsque cela s'est produit. Son cerveau ne pouvait pas comprendre la situation. Tout ce qu'il a pu se formuler, c'est que par sa faute, sa mère était morte dévorée. Lorsqu'il entrait en crise, il se prenait pour un animal et tentait de s'automutiler. Certainement une manière pour lui de tuer la bête qui avait emporté sa mère. Nous devions constamment le surveiller pour s'assurer qu'il ne se morde pas jusqu'au sang. Durieux garda le silence un instant, jaugeant la crédibilité de cette affirmation. L'enfant avait-il pu s'arracher les chairs ?